en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le vendredi 21 septembre 2007 s'est tenu à l'Institut de France un colloque de l'Académie des sciences morales et politiques sur l'évolution créatrice de Henri Bergson, œuvre dont on fête en 2007 le centenaire de la parution. Le célèbre philosophe, professeur au Collège de France, qui reçut le prix Nobel de littérature en 1927, fut membre de l'Académie française et membre de l'Académie des sciences morales et politiques dans la section philosophie. Lors du colloque, Bernard Bourgeois, membre de l'Institut, a prononcé une communication intitulée « La place de l'évolution créatrice dans la philosophie française ». Bernard Bourgeois est un philosophe, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dans la section philosophie. Depuis 1991, il préside la Société française de philosophie. Il est également membre de l'Institut international de philosophie et assure la direction de la revue de métaphysique et de morale. Bernard Bourgeois est l'un des plus éminents spécialistes de la philosophie allemande et en particulier de l'idéalisme allemand. Canal Académie vous propose d'entendre la retransmission de sa communication intitulée « La place de l'évolution créatrice dans la philosophie française ». Retrouvons-le en grande salle des séances.
Peut-être, sinon sans doute, puisqu'elle n'est pas encore achevée, mais sait-on jamais. L'année 2007 ne connaîtra-t-elle pas la gloire philosophique de ces deux illustres devancières séculaires, dont elle a célébré encore ici, aujourd'hui, pour l'un d'eux, les grands anniversaires. 1807, la phénoménologie de l'esprit. 1907, l'évolution créatrice. Mutatis mutandis ô combien. Bergson comme Hegel veut surmonter une époque de doute et de lassitude en tenant que l'absolu est auprès de nous et que son sens, logos, il est vrai pour Bergson intuitif et non pas conceptuel, est lisible, libéré de sa dissection par l'intelligence, disait Bergson. « Par l'entendement », disait Hegel, dans le phénomène, lisible dans le phénomène, dans l'empirique, dans le positif, intégralement exploré. C'est bien comme un ouvrage ainsi total en sa portée explicitée, à la différence de l'essai sur les données immédiates de la conscience et de matière et mémoire, que se présente elle aussi, l'évolution créatrice. Total, ou soyons plus bergsoniens, totalisant. Eu égard à l'entière mémoire philosophique de l'humanité, l'ouvrage de 1907 fait se concentrer celle-ci, qu'il arrache à ses oppositions et à ses contradictions répétées, dues à son errance pragmatique traditionnelle, en inscrivant adéquatement à la pointe de son cône, dans son actualité où elle se libère de son activisme, en devenant enfin pleinement consciente d'elle-même, tellement pleinement présente à elle-même. Toutefois, ce n'est pas alors à la manière de Hegel, qui s'est considéré, et puis d'ailleurs le seul, dans toute l'histoire de la philosophie, comme le dernier philosophe, redisant tout ce qu'avaient dit les autres, est déjà le premier penseur effectif, Héraclite. Ce n'est pas de cette façon que Bergson se situe dans la philosophie universelle, et c'est pourquoi j'arrête là le rapprochement dans l'excellence que je me suis permis. À l'égal de plusieurs autres, car ils sont nombreux, à l'égal de plusieurs autres penseurs modernes, de Kant à Lévinas, en passant par Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger, et même si lui-même, homme de paix aussi en philosophie, insère sa révolution dans ce qu'il appelle une évolution, Bergson, qui préfère, pour exprimer le principe du vrai, l'image fluente de la source à celle architectonique, architecturale, systématicienne, solide, solidifiante de la clé de voûte, Bergson se pose en premier artisan de la nouvelle philosophie, de la métaphysique devenue enfin elle-même, au lieu d'être une simple redite de la physique. Un artisan qui, certes, ne sera pas, qui ne peut pas, qui ne doit pas être le dernier, qui souhaite même, ce souhait réitéré chez Bergson, qui souhaite voir son essai poursuivi, dilaté, approfondi, sans cesse enrichi par les penseurs à venir, mais un artisan qui a parfaitement conscience d'être le premier, en tout cas l'un des deux premiers avec William James. Heureuse coïncidence pour les deux, car elle les confirme dans la vérité. Un artisan qui donc se sait être le premier à engager la philosophie dans sa vraie voie. C'est bien ainsi que Bergson définit sa place au sein de la philosophie universelle dès l'introduction de l'évolution créatrice, une philosophie dont la quatrième et dernière partie de l'ouvrage reconstruit tout le mouvement de Platon à Spencer. C'est au sein d'une telle philosophie universelle que Bergson aime à se situer, et on a souvent noté qu'il y privilégie alors la référence à Kant, qui ne fut pas pour lui le révolutionnaire qu'il crut être, le véritable Copernic de la philosophie. Selon l'évolution créatrice, s'étant approché de la distinction de la matière sensible, en distinguant la matière sensible et la forme intellectuelle de la connaissance, de l'idée d'une intuition non dissociante des choses, Kant l'écarta en la spatialisant, donc en la réintégrant dans l'intellectualité. Il ne sut pas profiter de l'exploitation de l'oscillation, c'est le mot de Bergson, de l'oscillation cartésienne entre le contenu de l'intelligence, les longues chaînes de raison, et le contenu du bon sens, c'est-à-dire, au fond, de la conscience extra-intellectuelle de la liberté. Car c'est bien à l'origine française de la révolution du fixisme logique de la pensée antique qu'apparaît, pour Bergson, la virtualité de la libération de la métaphysique vraie. Se situer dans la philosophie universelle, c'est donc naturellement pour Bergson se situer dans la philosophie française. C'est pourquoi, contrairement à toute suffisance tentant parfois épigone et commentateur, et parce que, ainsi que Guérou aimait à le rappeler, c'est bien le penseur qui comprend et donc situe le mieux ce qu'il a lui-même pensé, je crois qu'il convient d'écouter l'auteur de l'évolution créatrice circonscrire sa place dans la pensée française avant de proposer quelques remarques extérieures en tant que telles fort discutables sur cette place qui est incontestablement de toute première importance. Dans le corps même de ses ouvrages publiés, Bergson, certes, ne cite guère les philosophes français, à l'exception de Descartes, qui prend place parmi les grands noms de l'histoire de la métaphysique prisonnière de l'intelligence moulée sur la matière physique. Platon, Aristote, Leibniz, Spinoza, Leibniz et Kant. Non pas qu'il ignore ou méprise ses devanciers, même les plus modestes, ainsi que l'atteste aussi et assez ses différents cours de l'école normale au Collège de France, ou divers textes de circonstances, comme ceux qu'il consacra par exemple à deux de ses prédécesseurs en spiritualisme. Son grand écart de généreuse compréhension. Ce grand écart s'illustre, par exemple, dans l'éloge qu'il fait de Ravaisson, un éloge qui se clôt en résumant comme l'invention prophétique de Ravaisson lui-même une très large part du projet bergsonien, mais aussi dans la reconstruction surprenante de sympathie de l'œuvre de Paul Janet, l'un des derniers cousiniens, pourtant également pénétré de l'esprit biranien, cet esprit dont dérive tout le vrai spiritualisme français. Un Janet, Paul Janet, que Bergson présente quasiment comme étant déjà formellement bergsonien. Il manque assurément, surtout chez Janet, l'idée principe de la durée, mais cela n'empêche aucunement de la part de Bergson la reconnaissance d'un héritage, bien entendu fort inégal, et dont le livre dont nous célébrons l'anniversaire a fait évoluer le sens, c'est bien vrai, par une création inouïe. Cet héritage, selon Bergson, remonte au penseur d'où est issue toute la philosophie moderne, à savoir Descartes. Le texte proprement bergsonien de 1915, car il a été ensuite réédité avec la participation de Leroy, ce texte sur la philosophie française, confirmera le dualisme affirmé en 1907 au sein de l'oscillation que j'évoquais il y a un instant, non arrêtée par Descartes, entre le mécanisme de sa théorie de la nature et le spiritualisme de sa doctrine de la volonté libre. Un tel dualisme inaugurateur de la philosophie moderne sera alors transporté, Descartes gagnant en cohérence ce qu'il va perdre en richesse, dans la tension de son rationalisme d'ensemble à Descartes et de l'exaltation pascalienne du sentiment ou de l'intuition de soi du spirituel, une tension que le troisième grand penseur français, Malebranche, va tenter de maîtriser par l'articulation transcendante, divine, en l'âme humaine, du sentiment d'elle-même et de l'idée objectivante de l'étendue corporelle. Le XVIIIe siècle, plus immanentiste, va libérer le déploiement du rationalisme objectivant au-delà de la science de la nature inorganique, ça avait été fait par Descartes, dans la connaissance de la nature vivante, Lamarck, et psychophysiologique, Bonnet, Condillac, mais aussi sociale, Montesquieu et les encyclopédistes, la réplique subjective étant apportée ici par le penseur qui a eu le plus d'influence sur l'esprit depuis Descartes, ce penseur de l'intuition que fut Rousseau. Mais cette tension qui définit la philosophie française, c'est-à-dire au fond la philosophie universelle, cette tension entre la ligne dominante des philosophes pratiquant ou exploitant l'intelligence scientifique et la ligne réactive des penseurs de l'intériorité spirituelle, cette tension se maintient en France tout au long du XIXe siècle. Ainsi, à la première ligne qui passe par Claude Bernard, Kant et le positivisme, ainsi que rapproché de celui-ci, Taine et Renan. À cette première ligne s'opposa avec éclat, mais sporadiquement, l'affirmation intérieure de l'absolu, découvert directement dans la profondeur du moi par le troisième grand métaphysicien, après Descartes et Malebranche, Maine de Biran. C'est cette tension cartésienne non résolue à l'origine et non davantage résolue après Descartes. C'est cette tension cartésienne irrésolue devenue un déséquilibre au profit de la première ligne du XVIIIe siècle au XXe siècle entre l'affirmation donc subjective trop discrète de l'absolu et l'affirmation phénoméniste triomphante de l'objet que Bergson pense avoir pleinement est réellement surmontée dans l'évolution créatrice. Une œuvre qui réconcilie avec elle-même toute la philosophie française et par conséquent toute la philosophie universelle. Car la philosophie française, Bergson la décrit-elle en 1915, la philosophie française est une continuité ininterrompue de création philosophique originale. Dans l'évolution de la philosophie moderne, la France a été la grande initiatrice et elle est restée perpétuellement inventive, semeuse d'idées nouvelles. La France, malheureusement, a eu tendance à l'oublier trop souvent. Bergson pense alors résoudre le problème non résolu par Descartes, que cette irrésolution peut faire apparaître insuffisamment cartésien. Descartes irrésolu, ça n'est pas Descartes. Ainsi que Peggy écrivait dans sa fameuse note qu'il serait bien aisé de montrer que Bergson est infiniment meilleur bergsonien que Descartes ne fut un bon cartésien. N'accomplit-il pas, Bergson, la philosophie française par deux traits distinctifs essentiels, l'un concernant la forme, l'autre le fond du discours philosophique? D'abord, tout dire simplement, par l'ingénieux assemblage des mots usuels, compris de tous, qui analysent ce que l'on a en l'esprit, c'est-à-dire le tout lui-même. Ensuite, dire ce tout en ressaisissant son sens, unité multiple ou multiplicité une, à travers sa réalité offerte et dans l'expérience extérieure plus multiple des sciences. La philosophie française a toujours été étroitement liée à la science positive, dit Bergson, et aussi dans l'expérience intérieure, plus une, elle, si elle est fidèlement explorée. Une telle expérience intégrale, extérieure et intérieure, interdisant par son ouverture infinie toute fermeture systématique, systématicienne de la philosophie. Ce que Bergson s'est employé à faire dans son œuvre, eh bien, il n'est guère, je crois, inutile, il n'est guère utile d'y insister, une illustration exceptionnelle de ces deux traits. Mais cette intensification française du bergsonisme exprime son originalité qualitative, et c'est l'innovation de Bergson, qui lui permet de concilier, car cela ne va pas de soi, en réconciliant par là la philosophie française encore affectée par l'oscillation cartésienne, la première exigence, celle d'un discours simple de bon sens, et la seconde, celle d'un lien véritatif intime de ce discours avec celui de style opposé, le discours complexe en son symbolisme spécialisé des sciences positives. L'objet commun, nécessairement, si ces deux exigences doivent être réconciliées, l'objet commun alors assigné à la métaphysique vraie et à la base physique des sciences positives, c'est l'absolu lui-même déjà présent totalement dans ses manifestations les plus matérielles. Les choses elles-mêmes sont bien complices, d'une manière ou d'une autre, de l'intelligence fabricatrice qui les saisit. Une intelligence fabricatrice qui est bien elle aussi du réel, le réel. Le contenu objectif progressivement vérifiable de ces manifestations scientifiques apporte son être, son objectivité à la métaphysique, qui est ainsi empirique une première fois. Une métaphysique qui en dit de ses manifestations, le sens total lui-même éprouvé comme tel, et rendant par là cette métaphysique une seconde fois empirique, dans l'expérience la plus concentrée, la plus intérieure à soi, la plus en soi, si je puis dire, telle est la durée de l'en soi ou de l'absolu lui-même, qui est cette durée même. Cette métaphysique empirique, doublement empirique, totalement empirique, qui, pas plus qu'elle ne peut en tant qu'empirique ignorer dans un spiritualisme abstrait les sciences positives, ne peut en tant que métaphysique nier son spiritualisme vivifié et redressé dans le positivisme, le nier dans le positivisme d'une simple répétition généralisante de ces sciences. Voilà ce qui est, me semble-t-il, nouveau dans la philosophie française et sans doute dans la philosophie universelle. Voilà l'inédit par lequel Bergson réconcilie à la française, si je puis dire, le monde de l'esprit qu'un siècle auparavant, on avait entrepris de faire se réconcilier ailleurs autrement. Et c'est l'évolution créatrice qui, tout en ouvrant sinon certes la prévisibilité, mais du moins la possibilité de son couronnement de 1932, fixe la métaphysique bergsonienne de l'absolu par la dilatation, dont on a parlé, approfondissante de l'esprit déjà libéré, mais concrètement du naturalisme ou matérialisme, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience et matière et mémoire. Le texte de 1889 oppose la spatialité matérielle saisie par les sciences positives et la durée spirituelle qui est proposée à la métaphysique. Celui de 1896 les médiatise au sein de la conscience comme des tendances en elle inverses vers la matérialité perceptible pure et la spiritualité mémorielle pure, en les faisant se compléter de façon variable dans les plans qui ponctuent la continuité conscientielle non affectée par une négation réelle. Décisive est alors, et ça me semble ce qui est capital chez Bergson, décisive est alors l'idée que cette médiation pleinement positive est portée par l'être absolu du sens total, la mémoire, dont rien ne peut se perdre. Donc, l'être absolu du sens total, comme tel spirituel, où vient se réfléchir de façon déterminée, en rendant cet être de façon relative, présent, et j'insiste sur le terme, perceptivement, affectivement et symboliquement. Il y a cette dialectique, si j'ose dire, chez Bergson, entre l'être et le présent, à savoir où vient se réfléchir de façon déterminée, donc l'univers matériel qui se concentre à travers le corps organique dans l'activité sensorimotrice du cerveau. Tel est le schéma, désormais investi d'une portée ontologique, que Bergson généralise dans l'évolution créatrice. Il y identifie métaphysiquement, comme on vient de le dire, la psychologie et la cosmologie, avant de consacrer plus tard, sinon théologique moins, du moins dans une théorie de la religion, cette identité ainsi ouverte à la recréation concrète, scientifique, de tout le corpus traditionnel de la métaphysique ou de la philosophie, psychologie rationnelle, cosmologie rationnelle, théologie rationnelle. Par l'examen discursif logique, il y a de la logique, et quelle logique dans le discours bergsonien? Par l'examen discursif logique serré de l'expérience scientifique extérieure de ce qu'on peut alors appeler le fait de l'évolution naturelle. Il vérifie la légitimité du transport analogique sympathisant sur celle-ci, la vie naturelle, de la créativité intérieurement intuitionnée, c'est là le garant absolu de la durée spirituelle. Bergson peut ainsi déployer l'élan vital de l'esprit, lequel est déjà vie comme il est conscience, jusqu'au sein de sa retombée matérielle dans tout le cours de l'existence, mais de l'existence finie. Car l'élan vital, Bergson sur ce point est très net, l'élan vital est fini. Il est fini. Bergson, en effet, distingue de lui et du monde, des mondes qu'il porte, le centre d'où ils jaillissent, Dieu en sa vie infinie, qui, elle, ne tourne pas court, comme Bergson le confirmera en 1908 au père de Tonquédec. Mais alors, l'élan vital, en sa totalité. Et dédoublement, dissociation, différenciation spirituelle de l'identité divine absolue, qui n'est pas, mais qui a, et c'est l'essentiel, cette évolution créatrice d'elle-même. Une telle restitution métaphysique scientifique du tout, en tant même qu'il dépasse le tout physique de l'univers. Quand Bergson parle de l'univers, il lui met une minuscule. Quand il parle de l'absolu, il lui met une majuscule. Donc une telle restitution métaphysique scientifique totalise de la sorte le discours philosophique de Bergson, dont la genèse historique idéale clôt l'ouvrage de 1907, la grande rétrospection, Johann Fagolor, je vais parler de l'histoire de la philosophie. Il totalise donc ce discours en un socle sur lequel pourrait s'ancrer la communauté réconciliée des philosophes dont Bergson espère la venue. Mais l'histoire ultérieure réelle de la philosophie française va récuser cette clôture en donnant en elle une autre place à l'auteur du si bel ouvrage. Je voudrais dans une seconde, mais plus courte partie, Monsieur le Président, évoquer, vous proposer quelques remarques dont je sais qu'elles sont éminemment discutables. Dans l'introduction de l'évolution créatrice, Bergson disait qu'il comptait que son essai, en définissant la méthode de la nouvelle philosophie ou métaphysique, se présentant en tant que tel, et non pas simplement possible à l'avenir, se présentant en tant que tel comme science, serait appliqué par la communauté des penseurs désormais réconciliés sur l'essentiel. Mais cette communauté que d'ailleurs Bergson ne fréquentait qu'assez rarement à la Société française de philosophie. Lorsque Bergson était présent, le président de la société éprouvait le besoin de souligner sa présence. Il n'était en réalité, si vous voulez, moins communautaire qu'il souhaitait que les philosophes ne le fussent. Cette communauté ne reconnut pas toujours en France, dès 1907, la novation, même programmatique, du grand livre de l'année. On fut assez souvent bien loin en France de l'enthousiasme d'un William James devant l'apparition divine, le vrai miracle de l'histoire de la philosophie que constituait à ses yeux l'évolution créatrice, dont l'originalité elle-même, en France, déjà, presque aussitôt, se trouve contestée. Quelques exemples suffisent à le montrer. Le matérialiste Le Dantec, qui fait paraître la même année d'ailleurs ses éléments de philosophie biologique, déclare qu'il dit la même chose que Bergson. Bergson s'évertuant à protester qu'il a dit tout le contraire. François Pillon, dans l'année philosophique, l'héritage de Renouvier, veut bien reconnaître formellement une originalité à Bergson, mais il la lui dénie réellement en observant que lui-même, Pillon, a souvent exprimé les vues qui se résument dans la notion d'élan vital, et que l'inventeur de cette expression a en fait retrouvé la doctrine de la contingence déjà développée par Boutroux. Eh bien, Boutroux lui-même, le grand successeur spiritualiste à l'université de Ravaisson et de Lachelier, Boutroux évoque certes lui-même en 1908, dans son étude sur la philosophie en France depuis 1867, la métaphysique de la vie considérée suivant l'évolution créatrice comme effort pour faire produire à la matière quelque chose que d'elle-même elle ne produirait pas. Mais Boutroux accorde en fait plus de place dans son étude, par exemple à Taine et à Renan qu'à Bergson, un Bergson qu'il ne cite même pas parmi les philosophes s'appuyant sur les sciences. Les choses vont changer. Assurément, il y aura les critiques de Maritain, de Bindat, de Pulitzer, d'autres encore, mais nombre de penseurs français du XXe siècle, Marcel, Val, Merleau-Ponty, pour n'en citer que quelques-uns, diront et parfois illustreront la place importante de Bergson dans la philosophie en France. Il est vrai que ce ne sera pas toujours en s'attachant essentiellement dans son œuvre à la somme métaphysique qu'est, parce qu'elle enveloppe, tout autant que parce qu'elle développe, l'évolution créatrice. Il n'est pas question pour moi de juger ici le jugement varié en ses attendus des philosophes français sur Bergson. Et par là, de juger indirectement, ce serait ridicule. La philosophie bergsonienne elle-même, singulièrement en son œuvre phare. Sa novation, dans son contenu positif principal, sinon en sa légitimation négative à travers la critique des philosophes antérieurs, mais on sait que les grands philosophes ne sont pas tous dans son faux, surtout quand tel n'est pas leur destin, de bons historiens, de sûrs historiens de la philosophie. Sa novation, la novation de Bergson, me semble avoir été parfaitement saisie par lui-même. Car il est bien vrai que Bergson invente une métaphysique strictement scientifique qui, cependant, de l'être essentiellement vivant, sa durée créatrice, dont les sciences ne disent que la facticité extérieure mesurable, dit, elle, cette métaphysique, la signification immanente, présente à soi, présente à soi intuitive de cet être en son fond esprit. Je voudrais simplement m'interroger sur les raisons qui ont bloqué, en fait, ou presque, l'essor de la métaphysique. Je vois deux raisons principales de son blocage. L'une ayant trait à la forme de la pensée qui s'y pratique, l'autre au fond de la pensée qui s'y trouve exprimée. Contemporain de Bergson, Husserl a vu ses essais méthodologiques successifs susciter toute une communauté de chercheurs husserliens appliquant aux diverses régions de l'activité intentionnelle de la conscience instauratrice de sens l'analyse descriptive et la synthèse fondatrice de cette activité. La genèse phénoménologique du sens est une tâche infinie et chacun, en principe, si je puis dire, peut y ouvrir un nouveau champ d'exploration. Il n'en va aucunement de même dans l'assomption du bergsonisme. La signification de la conscience, de cette conscience qu'est déjà la vie elle-même, c'est-à-dire la signification du tout spirituel de l'être, s'offre à la diction logique, mais celle-ci a une fin, la diction logique du contenu même de cet être, imposant sa détermination certes en surface à l'expérience commune, est là aussi, si vous voulez. On peut régler la difficulté. Mais en sa profondeur, et c'est là la grande difficulté, cet être s'offre à l'intuition immédiatement vécue, qui, non architecturalement constituée, n'est guère, au sein de la méthode métaphysique bergsonienne portée par elle, méthodologiquement maîtrisable. La génialité y a sa place, et il est bien difficile, me semble-t-il, d'être plus bergsonien, d'être meilleur bergsonien que Bergson. Aussi, et même si la volonté antisystématique de Bergson semblait lancée à travers son exigence de traiter successivement, empiriquement, les problèmes les uns après les autres, si Bergson semblait lancer par là une large succession collective dans les études bergsoniennes, celles-ci se tarirent quand il eut traité les plus essentiels de ces problèmes. Comment dire mieux et comment dire autre chose? Un problème, il est vrai, est le plus fondamental pour une philosophie qui loge le principe 1 de tout l'être et de la vérité à la source. Un problème restait ouvert. Il allait susciter la question même du bergsonisme. Ce problème concerne le fond même de la métaphysique proposée dans l'évolution créatrice, à savoir l'ambiguïté, je crois qu'on peut prononcer le mot, à savoir l'ambiguïté de l'affirmation d'une source divine infinie, de l'élan vital fini porteur des mondes, ambiguïté de l'affirmation d'une telle source comme étant à la fois simplement probable, mais aussi conçue qu'elle est à travers la notion de création, expérimentable par nous dès que nous agissons librement. Une telle expérimentation intuitive dont Bergson écrira au père de Tonquédec qu'elle pourrait, en s'appliquant au fait moral, fortifier une telle affirmation de l'être, Une telle expérimentation ne peut, dans le contexte de l'évolution créatrice, et sans doute, je le crois, ultérieurement d'ailleurs, l'affaire intégrée dans le discours métaphysique strict. Nous expérimentons la différenciation finie, qu'est l'élan vital, non la différenciation infinie dans l'identité divine d'elle-même et de cette différenciation finie. Une telle secousse absolue, et j'emploie le mot secousse parce que c'est celui que Bergson employait, une telle secousse absolue excède la métaphysique sans secousse que Bergson réclamait en 1901 devant la Société française de philosophie. Une métaphysique sans secousse. Elle ne pourrait être pensée, cette secousse, elle ne pourrait être pensée que par une dialectique accordant à la négation la puissance réelle que cette métaphysique bergsonienne lui dénie dans sa cime spéculative, la critique de l'idée de néant développée en 1907. La discontinuité, comment parler autrement ? La discontinuité au fondement de l'être, alors métaphysiquement dit, dans une certaine imprécision, n'offre donc pas de jeu pour un complètement du bergsonisme. Bergson ferme ainsi, et définitivement, me semble-t-il, son discours le plus achevé de métaphysique sur une ouverture et béance originelle de l'être sur lequel il fait pourtant reposer son discours. De la sorte, par ce qu'il a de moins positif, comme par ce qui a été montré en lui il y a un instant de plus positif, le bergsonisme est bien saturé par Bergson lui-même. On comprendra, dans ces conditions, que la métaphysique nouvelle, inaugurée en sa plénitude par l'évolution créatrice, ait pu ne pas être une création continuée d'elle-même. Les philosophes, attachés d'abord à l'ouverture et progression scientifique, ont pu hésiter à faire leur la fermeture métaphysique de celle-ci. Tandis que les métaphysiciens soucieux d'un solide ancrage sur l'un ont pu rechigner à bâtir sur l'ouverture et imprécision principielle de la métaphysique de Bergson. L'exposition sans cesse rééditée de celle-ci dans l'évolution créatrice, plus d'une fois par siècle, plus d'une fois par an pendant des décennies, l'a fixée sans la faire vraiment durer au sens bergsonien du terme dans la philosophie française. L'élan vital philosophant, la philosophie procède bien elle aussi de l'élan vital. L'élan vital philosophant, c'est dans la philosophie française, lui aussi donc engagé dans des directions divergentes, parmi lesquelles telle qui était assurée d'être la grande route de la création, a pu, même reconnu dans tout son éclat, être jugé, pour la vitalité se voulant créatrice, une impasse. Mais je veux si peu ici engloutir Bergson dans lui-même, dans sa conception de l'élan vital et de l'évolution créatrice, partout. Je veux si peu engloutir Bergson dans lui-même, en exprimant son destin par le plaquage que je sais trop extérieur d'un thème chez Bergson bien vivant, que, permettez-moi d'avouer pour finir ma conviction, qui doit être largement partagée ici, je tiens son œuvre, et singulièrement à travers l'évolution créatrice, non seulement pour un admirable, pour un exceptionnel tout de métaphysique innovante, le grand tout de métaphysique de notre siècle, mais aussi comme un puissant rappel à elle-même de la philosophie dans notre époque. Certes, l'éblouissement des analyses qui conduit une intelligence spéculative hors du commun est parfois tempéré, par exemple, par l'interrogation que l'on peut soulever sur la fondation intuitive du lien dit capital affirmé entre l'intelligence d'une part et d'autre part l'action ou volonté intéressée. Lien qui fait alors procéder d'une torsion de celle-ci sur elle-même, la présence à soi, qu'on peut penser bien plutôt originaire de l'esprit. Mais plus radicalement, Bergson me semble rappeler, avec une force incomparable à la philosophie actuelle, qui se complète trop dans les préalables et les précautions, que nous sommes à l'être, et à elle aussi, qui tend à se perdre dans la complication langagière, que cet être doit être dit simplement, donc au plus près de lui-même, comme être. J'évoque ici à dessein le tout début de la philosophie. Parce que, en tout son art, l'évolution créatrice a bien dit l'être tel, elle peut être considérée comme le grand poème de l'être en français dans les temps modernes.
Vous venez d'entendre Bernard Bourgeois, membre de l'Institut, dans le cadre du colloque de l'Académie des sciences morales et politiques, consacré en septembre 2007 au centenaire de la parution de « L'évolution créatrice » de Henri Bergson.